Alors nous abordons précisément la question des résolutions, on vous en parle de ci, de là. Vous aurez à votre disposition, je pense que vous nous êtes une petite feuille qui sera sur le bureau en sortant, qui vous donne des pistes pour prendre des résolutions, tant sur la vie intérieure, que sur la formation religieuse et sur l'action de... parce qu'on ne vit pas que pour soi. Il y a donc, sans doute, selon son âge, bien sûr, selon son état de vie, sa profession, des actions qui peuvent être faites, au moins par certaines d'entre vous. Donc je vous laisse la feuille à disposition sur le bureau pour tout à l'heure. Alors, une retraitante qui se dispenserait finalement d'examiner sérieusement pendant la retraite devant Dieu les véritables obstacles à l'action de la grâce dans sa vie concrète, dans sa vie personnelle, eh bien, finalement, quitterait la retraite et n'aurait pas pris de résolution, c'est-à-dire n'aurait pas fixé sa volonté sur des points très précis, on pourrait dire qu'elle serait semblable à cette personne dont Saint Jacques parle dans son épître. Et il dit ceci, « Si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne l'observe pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir le visage qu'il tient de la nature, à peine s'est-il considéré qu'il s'en est allé, oubliant aussitôt quel il était. » Donc Saint Jacques prend l'image d'un homme qui se regarde dans un miroir et qui se regarde sans attention finalement, qui ne cherche pas à voir qui il est. Eh bien, la retraite doit nous permettre de savoir qui nous sommes. Alors nous l'avons fait, vous l'avez fait spécialement dans l'examen de conscience, bien sûr, mais ça ne suffit pas, parce que s'il y a eu ces péchés, c'est qu'il y a eu des causes à ces péchés. Alors certains péchés sont on pourrait dire, presque sans racine, c'est pas tout à fait exact, mais enfin disons qu'ils peuvent être par surprise, ils peuvent être exceptionnels. Donc, ce ne sont pas les plus dangereux, on les a regrettés, et il peut y avoir même une forte méfiance contre eux, et donc le risque qu'ils se reproduisent est minime. Mais il y a tous ceux qui se sont multipliés, qui se sont répétés tout au long de notre vie, et dont on sait bien qu'ils sont un danger majeur dans notre vie, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils risquent de se reproduire, parce que nous sommes fragiles. Alors ceux-là ont une cause, ont des causes. Et ce sont ces causes qu'il faut examiner sérieusement, comme dans un miroir, pour pouvoir aller à leurs racines et les contre-attaquer de façon, j'allais dire, réfléchie, stratégique. Alors je voudrais utiliser cette image de Saint Jacques. L'image du miroir, c'est plus un prétexte et une transition, mais je voudrais aborder cette question du temps qui peut être passé à un certain nombre d'activités et qui n'en valent pas la peine. Alors pourquoi le miroir ? Bien parce que c'est souvent plus un reproche que l'on fait aux dames de se regarder abondamment dans les miroirs, mais dans nos temps décadents, et on voit ça chez les jeunes surtout, adolescents, le miroir est très important, ou les grandes vitres qui se présentent à eux. Alors, au-delà de la plaisanterie, si vous voulez, je crois que il peut y avoir, dans cette recherche de soi-même, au sens plus physique et au sens de coquetterie du terme, eh bien, un symbole plus que un temps perdu qui serait l'unique propos que je traiterai cet après-midi. Ce n'est pas ça du tout. Mais c'est l'idée qu'il faut retenir. C'est-à-dire que dans notre vie, il y a du temps qui est utilisé pour des choses qui n'en valent pas la peine ou qui sont disproportionnées. Et c'est cela qu'il va falloir regarder, entre autres, dans notre vie quotidienne. Alors le miroir, ça peut être cela. Ça peut être cette coquetterie qui fait prendre du temps, cette recherche de plaire et qui peut prendre trop de temps dans sa réalisation. Beaucoup de vanité, beaucoup de soucis de paraître, beaucoup de soucis de se faire remarquer finalement. Alors on a le devoir d'être présentable, attention. Il ne s'agit pas de briser les miroirs en rentrant chez vous. Mais l'épouse, notamment, a le devoir d'être agréable à son époux, bien sûr, à sa famille. Et la négligence dans le vêtement est peut-être une faute, peut-être une... Il y a esprit de pauvreté, bien sûr, mais la pauvreté n'a jamais été le synonyme de négligence ou même de paresse, à ne pas chercher à s'habiller correctement. Donc il ne s'agit non plus pas de ça, mais bien sûr, il peut y avoir un temps excessif dans cette activité d'être présentable, de soigner son visage à l'excès, etc. C'est cet excès-là dont il s'agit. Ça peut être une autre activité, tout autre, ça peut être par exemple le téléphone. Le téléphone dont on fait souvent un usage qui peut être excessif dans sa durée. Alors, prenez ces deux exemples. Vous n'êtes peut-être concerné ni par l'excès de l'un ni par l'excès de l'autre, c'est tout à fait possible. Donc, je ne vais pas donner 50 exemples, mais je vous invite à réfléchir sur ce qui correspond dans votre vie à une perte excessive de temps sur des points qui ne sont pas illégitimes à l'origine, c'est souvent ça, c'est comme ça qu'on se satisfait, c'est comme ça qu'on s'excuse finalement, puisqu'il faut bien le faire, donc on ne va pas supprimer cela, mais qui prennent une part trop importante de notre journée. Le téléphone, reprenons cela. C'est vrai que c'est utile, c'est indispensable dans bien des cas, etc. Mais finalement, lorsque ça devient une espèce d'esclavage, d'être constamment à se dire « tiens, il faut que j'appelle un tel, une telle pour lui raconter ce qui m'est arrivé » ou des choses comme ça, on sent bien que le téléphone perd sa fonction pure d'utilité, mais devient comme une espèce d'occasion de se déverser, de ne pas se retrouver seul, et de finalement parler et se vider soi-même, ou écouter l'autre qui se vide lui-même, elle-même, et oublier que ce temps qui passe va être utilisé à quelque chose qui finit inévitablement par être vain ou dangereux. C'est-à-dire que les conversations ne pourront pas être bonne constamment, à partir d'une certaine durée. Alors il n'y a pas une loi physique ou scientifique qui fait que, à partir de tant de minutes, c'est une conversation oiseuse ou mauvaise, mais de fait, ça s'observera. Il est quasiment impossible à deux personnes, pendant un certain temps, de ne pas risquer de dire du mal d'une troisième personne, bien sûr. Alors, c'est la difficulté. Est-ce que pour autant il faut supprimer de converser avec des personnes? Non, ça peut être même bon d'appeler une personne pour prendre de ses nouvelles, et en sachant qu'elle est seule, ça lui fera plaisir de discuter un petit peu. Donc attention, ce n'est pas cela qu'il s'agit de supprimer. Mais c'est bien sûr une question de temps, de durée, donc de proportion, de vertu finalement. Troisième point qui peut être abordé, toujours dans ces choses qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais qui prennent excessivement de temps, enfin, ou qui peuvent prendre, la presse, les médias. Donc l'information, ce qu'on appelle l'information. Alors les médias, on en a maintenant un choix énorme. La presse écrite, la presse hebdomadaire, quotidienne, télévision, sur la région parisienne ou les grandes villes, on a des journaux gratuits qui s'empilent. Et c'est facile puisque c'est gratuit. Donc on ne paye rien et on lit des bêtises. C'est donné maintenant, c'est quasiment, vous êtes obligé de le prendre, ou alors maintenant il faut dire non. Alors qu'avant il fallait le ramasser, maintenant il faut le refuser, ou alors on le prend. C'est impressionnant si vous avez déjà observé dans des points fixes d'attente l'arrivée de ces personnes sur ces piles de journaux. Une fois j'ai dû m'amuser parce que j'étais coincé, mais... C'est peut-être une personne sur 20 qui ne prend pas ce journal, pas plus. C'est impressionnant. C'est peut-être qu'elles en ont déjà un dans le sac. Mais bon, c'est... Alors moi, je les ouvre de temps en temps, puisque nos élèves à Saint-Bernard, à Courbevoie, sont quand même très tentés par cela, c'est moins qu'on puisse dire. Et on voit quand même que c'est une presse très, très toxique. Il y a beaucoup de photos, souvent, il y a toujours... plusieurs photos qui sont indécentes, des publicités, des choses comme ça. Et puis les textes, déjà le choix même des informations qui sont proposées est déjà complètement orienté. Pourquoi on vous fait la une d'un événement qui n'en est pas un ? Ben pour vous faire croire que c'est un événement très important. Alors que si vous réfléchissez deux secondes, vous dites ben, c'est pas très important, en tout cas pour la plupart des êtres humains. Je ne parle pas des choix de mise en valeur politique, etc. Mais le plus toxique, ce sont les choix de mise en valeur de société, de faits de société, d'enquête. Et puis, cette maladie de nos sociétés qui sont les sondages d'opinion, où on vous montre que, puisque 80% des personnes sont pour telle ou telle chose, et vous êtes où ? Dans les 20%. Donc vous êtes bête, puisqu'on n'avait pas compris que la majorité était pour, et vous seriez contre, etc., etc. Et là, on fait beaucoup de travail dans les esprits pour, d'abord pour révéler finalement, pour faire croire aux gens qu'ils ont, puisqu'ils sont pour et majoritairement, c'est que c'est vrai. Donc ça, c'est déjà un vice au niveau de l'intelligence, de faire croire que la vérité dépend du nombre de ceux qui y adhèrent. Et d'autre part, c'est fait aussi pour modifier les comportements, pour inciter une modification des comportements. Alors bon, peu importe, il y a d'autres presses. Voyez où vous en êtes dans cette curiosité sur la presse. Il ne s'agit pas de ne pas s'informer, il s'agit de savoir le temps que vous y passez. Ce n'est pas la même chose. Télévision, bien sûr, Internet, que ce soit maintenant la presse, ou maintenant sur téléphone, puisqu'on reçoit tout sur téléphone si on veut. Alors, peut-être vous n'êtes pas concerné ni par le 1, le 2 ou le 3 de mes exemples. Très bien. Mais il y a sûrement quelque chose dans votre vie qui en prend la place, qui en fait office, si vous voulez. Alors c'est là-dessus qu'il faut regarder. Ça peut être un jeu, ça peut être une activité qui vous passionne, ça peut être même une bonne activité, ça peut être, je ne sais pas moi, vous aimez faire la couture, vous aimez faire la cuisine, vous aimez faire, vous voyez, qui fait partie de votre vie domestique, qui fait partie de votre devoir d'État même, mais qui est pris trop à cœur finalement et qui absorbe votre temps au dépens d'autres choses que vous négligerez parce qu'elles vous plaisent moins. Et c'est ça qu'il faudra regarder peut-être pour corriger le tir. Donc, comment la détecter ? Ben, on sait bien ce qui nous prend du temps ou pas. Donc déjà, il faut examiner froidement, faire la liste, on pourrait dire, de ce qui nous prend le plus de temps. Et puis, on va bien sûr éliminer ce que l'on fait parce que de toute façon on est obligé, et dont on se dispenserait a priori de faire si on n'était pas obligé. Donc c'est pas là-dessus qu'on risque de faire des excès. Je pense pas que vous soyez dans l'excès de faire de la vaisselle ou de la lessive, donc c'est évidemment pas ces choses-là qu'il faudra réduire. Mais il y a des activités plus de loisirs ou qui sont à moitié de loisirs, à moitié de devoirs, mais qui prennent du temps. Alors, vous aurez sûrement de bonnes excuses qui viendront. Alors ça, c'est intéressant, les bonnes excuses. Parce que comme toutes les bonnes excuses, finalement, elles ne sont pas bonnes. Et donc, elles se maquillent, j'allais dire, pour se montrer justement innocente de toute faute et de tout excès. Alors, ces bonnes excuses, elles sont intéressantes pour vous, dans cet examen que vous ferez, là, parce que c'est elles qu'il faut les écouter. On pourrait dire, on les fait venir à la barre du procès, et on leur dit, bon, alors, qu'est-ce que vous dites pour votre défense? Alors, vous écoutez cette défense, et puis, eh bien, vous allez voir que ça ne tient pas la route. Mais surtout dans le temps de la retraite. Si vous faites ce petit travail une fois rentré chez vous, ce sera beaucoup plus difficile et beaucoup moins efficace. Mais si vous le faites devant Dieu, en ayant prié pour demander au Saint-Esprit de vous montrer ces choses-là, eh bien vous vous rendrez compte qu'effectivement, ça vous supprime du temps. Et du coup, vous ne pouvez pas prendre la résolution de dire le chapelet. Vous ne pouvez pas prendre la résolution de faire un quart d'heure d'oraison. Vous ne pouvez pas prendre la résolution de vous former à reprendre votre catéchisme ou à lire un livre spirituel. Parce que vous avez des arguments béton qui vous font dire, ben non, voilà, mon emploi du temps, il est complet, et je ne peux pas diminuer mon sommeil ou supprimer un repas pour faire ça à la place, ce qui est vrai. Alors vous voyez, ces bonnes excuses, il faudra leur couper le cou, leur tordre le cou, puisque elles sont finalement une certaine forme de mauvaise foi. Alors, comme il ne s'agit pas de supprimer intégralement ces activités, puisqu'on a vu que la plupart du temps, elles se justifient, au moins quant à une certaine quantité. On a vu téléphone, miroir, pourquoi pas information, bien que dans bien des cas, ce soit souvent du temps perdu, parce que je vous disais, on apprend, on découvre des choses qui n'en valent pas la peine, parce qu'elles sont faites par des gens qui n'ont pas pour but de nous construire, de nous élever. Ce sont tout autre but, qui sont à l'origine de la presse moderne. Donc le mieux, c'est de s'en méfier au moins, et de s'en préserver généralement. Ce qui n'empêche pas de lire des choses peut-être plus à fréquence moindre, par exemple un hebdomadaire ou un mensuel, qui lui fait forcément le tri, parce qu'il fait un recul sur les événements, ce qui est déjà plus intelligent et plus constructif. Alors, il ne s'agit pas donc de supprimer, mais de réduire. Et on se rendra compte que finalement, en ayant réduit de 5-10 minutes telle ou telle activité, je pense au téléphone par exemple, alors ça dépend si on réduit de 5 minutes parce qu'on téléphone une heure, c'est peut-être pas encore assez, à la même personne j'entends. Et du coup on se rendra compte que l'on disposerait d'un quart d'heure par-ci, d'une demi-heure par-là, et pour faire ce que l'on aimerait quand même faire, lecture de sa Bible, lecture spirituelle, oraison, chapelet, etc. Tout ce qui n'arrivait pas, soi-disant, à être casé dans ma journée, si on réfléchit bien, on pourrait le faire sans se lever plus tôt ou se coucher plus tard, sans supprimer un minimum de détente qui peut exister, surtout si on a une activité chargée, une famille nombreuse, etc. Bon. Et encore, là, vous savez très bien, mieux que moi, que famille nombreuse, les mères de familles nombreuses sont souvent justement prise tout le temps, ça c'est vrai. Mais à vous de voir s'il n'y a pas des petits créneaux qui peuvent être préservés. Et souvent ils existent. Alors ça peut dépendre en fonction de l'âge des enfants, c'est vrai, mais il y a à partir d'un certain âge ou en fonction des écarts des enfants les uns des autres, eh bien il y a toujours de quoi pouvoir trouver si on s'organise bien. Mais c'est si on s'organise bien. Et donc c'est ça qu'il faut essayer de, d'avoir comme résolution, c'est finalement un souci d'organisation. Alors, pour terminer sur cette question du temps, ayons surtout, pour vous y inciter, un regard surnaturel sur le temps, un regard de foi. N'oublions pas que ce temps dont on parle nous est donné pour nous sanctifier, pour nous racheter. Et saint Paul a cette expression qu'il faut racheter le temps, c'est-à-dire le remplir d'activités sanctifiantes. Le temps dont nous disposons et dont nous ignorons la durée, eh bien, il est fait, il ne nous appartient pas, pardon. Il nous est comme prêté pour accomplir notre salut. Il nous est prêté pour que nous le remplissions d'une véritable union à notre Seigneur, puisque c'est en étant unis à notre Seigneur que nous allons pouvoir nous sauver. Et on peut être unis à notre Seigneur dans les activités les plus simples, heureusement, les plus banales, les plus répétitives. Et tant mieux, puisque c'est répétitif, donc on ne va pas s'investir, se réfléchir tellement fort, puisqu'on sait faire ça très bien, très facilement, ça nous est plus ou moins pénible. Mais en tout cas, c'est l'occasion de rencontrer notre Seigneur, comment ? Eh bien, dans l'obéissance qu'il a pratiqué, dans le souci de bien faire les choses indispensables de la vie quotidienne. Ce sont des moyens d'union à Dieu. Alors tant mieux qu'il soit facile, toutes ces activités, préparer le repas, faire la lessive, s'occuper des enfants, etc. Donc, voyons dans le temps un moyen de nous sanctifier, un cadre, un lieu, un temps pour nous sanctifier. Cela peut impliquer aussi qu'il peut y avoir, alors là c'est à chacune de regarder sa propre vie, des activités, que ce soit de loisirs ou d'autres, qu'il va falloir supprimer de votre vie, parce qu'elles vous entraînent directement à des péchés ou à des états dangereux. Alors le test, finalement, pour se dire est-ce que ça que je fais, est-ce que je dois le supprimer ou le réduire ? Ben, regardez si ça vous fait pécher, tout simplement. Si ça vous fait pécher régulièrement, c'est à supprimer. Je parle des activités, loisirs, choses comme ça. Hein. Est-ce que Jésus pourrait faire cette activité avec moi ? Voilà un test. Est-ce que je le ferai volontiers avec quelqu'un d'autre, etc. Publiquement. Ce sont des tests. Est-ce que notre Seigneur m'y encourage ? Il peut m'encourager à me détendre, attention. Hein. Si je suis très fatigué, très tendu, j'ai beaucoup travaillé. C'est prudent, c'est raisonnable de se détendre un peu. Donc notre Seigneur pourrait nous y inciter s'il était là devant nous à nous dire, bon, ben, vous lui diriez, qu'est-ce que je dois faire ? Ben, il vous dirait, reposez-vous. Ce serait... Donc ce n'est pas... Ça peut être... On peut être encouragé à faire des choses qui pourraient nous sembler de la paresse ou je ne sais quoi, pas du tout. Donc le combat spirituel, n'oublions pas qu'il exige hein, que nous fuyions les occasions de péché. Quand on garde une occasion de péché dans sa vie, c'est qu'on n'a pas de contrition hein, sur ces fautes. Une occasion de péché, c'est quelque chose qui fait que, pour nous, ça nous entraîne au péché. Alors ça peut être éloigné ou prochain. On parle d'une occasion prochaine ou d'une occasion éloignée. Une occasion prochaine, elle doit être obligatoirement supprimée ou transformée en occasion éloignée. Je prends des exemples qui ne nous concernent pas, mais imaginons la personne alcoolique qui essaye de s'en sortir et qui passerait devant un café très fréquenté où il aurait précédemment eu quelques excès. C'est dangereux pour lui de repasser devant systématiquement. Donc il faut qu'il se débrouille, il faut qu'il change de chemin, même si c'est plus long, pour éviter la tentation de rentrer, de boire à l'excès. Même chose chez lui, il faudra qu'il évite d'avoir de l'alcool, etc. Vous voyez, ce sont des occasions prochaines pour lui, donc il faut éloigner l'occasion prochaine. C'est exactement ce principe. Hein. Alors, pour le temps, pour cette organisation du temps, il peut être bon pour certaines d'avoir un emploi du temps. Ce n'est pas une loi pour tous, pour toutes, mais ça peut être une loi, en tout cas, enfin un conseil très vif pour ceux, celles qui ont eu une vie très, très désordonnée, un petit peu dans tous les sens, et qui veulent véritablement, avec la retraite, reprendre, reconstruire quelque chose d'ordonné. Alors, dans un premier temps, c'est bien d'avoir un emploi du temps qui soit un petit peu souple. Hein. Faut pas que tous les créneaux horaires soient pris, parce qu'il y a toujours des aléas, il y a toujours des imprévus. Donc, il faut que ça puisse rentrer dans notre journée. Mais des grandes lignes, ou plus exactement, se dire, voilà, ça, ça et ça, il faut que je l'ai fait. C'est plutôt par des priorités, en situant grosso modo la demi-journée ou le créneau horaire dans lequel ça peut être fait. Ça, c'est important d'y songer pour reconstruire une journée plus chrétienne, plus marquée, dans un temps qui nous sanctifie. Le deuxième aspect que je voudrais aborder, le deuxième grand aspect, à part le temps, donc cette question du temps, c'est la question du défaut dominant. Le défaut dominant, c'est quelque chose de très important. Si on le repère, on va pouvoir le combattre. Et si on le combat, on va faire des progrès. Donc il ne faut pas se priver, évidemment, d'aborder cette question très importante. Les auteurs spirituels l'appellent notre seconde nature, c'est-à-dire que c'est une tendance générale qui prévaut sur tout notre être, tout notre comportement, notre façon de sentir, notre façon d'agir, notre façon de juger. Et c'est lié à notre tempérament, c'est en nous-mêmes, c'est lié à notre nature donc. Et c'est une inclination qui va nous faire pencher en un certain sens, dans une certaine direction. Et comme elle nous fait pencher tout notre être vers cette certaine direction, eh bien, on va chercher à la satisfaire. On va sans cesse aller dans son sens. Alors, il ne faut pas confondre le défaut dominant et le péché le plus fréquent. Ce sont deux choses distinctes, même si le péché le plus fréquent peut découler du défaut dominant. Mais le défaut est beaucoup plus est antérieur à nos péchés. Il est cette inclination de notre nature, liée à notre tempérament. Donc c'est quelque chose qui est plus une racine qu'un fruit. Le péché, c'est un mauvais fruit, mais c'est un fruit. Tandis que le défaut dominant est au niveau d'une racine qui nous fait pousser d'une certaine façon. Alors, c'est l'héritage à la fois du péché originel, bien sûr, dont nous avons les conséquences, mais à des degrés divers, donc évidemment, ça va jouer d'une personne à l'autre, et puis de notre tempérament. Donc, il y a un côté un petit peu, à la fois héréditaire, mais aussi d'éducation. Donc, on ne peut pas dire, voilà, d'où vient, c'est pas chromosomique, le défaut dominant. Hein. Donc, ce qu'il faut, c'est évidemment savoir qu'il existe, savoir qu'il est dangereux. Certains prennent l'image comme d'une lézarde dans un mur qu'on laisserait se propager, s'étendre. Et du coup, au bout d'un certain temps, le mur s'effondre. Ben, c'est malheureusement pareil pour le défaut dominant. Il est quelque chose de lent à la destruction. Ce qui fait que ça montre d'ailleurs l'importance de l'éducation, dans les vertus, dans la correction de nos défauts, parce que justement, on voit bien que ça n'est pas à l'âge de l'enfant que ces défauts sont les plus graves, généralement, dans leurs conséquences. Mais c'est s'il ne s'est pas corrigé à son âge d'enfant, il ne se corrigera pas en étant adulte, et ce défaut ne fera que croître. Donc, non seulement il n'y aura plus de correction, mais en plus, il croîtra. Donc, il finira par faire craquer l'organisme, on peut dire. Donc, c'est vraiment un ennemi domestique. Je me sers en partie de l'ouvrage, mais qui n'existe pas, je ne sais plus s'il existe en réédition, du père Garrigou Lagrange, « Les trois âges de la vie intérieure ». Vous connaissez peut-être, c'est un dominicain, donc un très grand dominicain du XXe siècle. Les trois âges de la vie intérieure, c'est en deux tomes, et là vous avez un petit chapitre sur le premier tome qui est très bien fait. Alors, ils disent, c'est notre ennemi domestique. Et alors, ce qu'il y a d'effrayant avec ce défaut dominant, c'est qu'il va souvent être, il va corrompre notre qualité dominante. Parce qu'on a une qualité dominante. Mais cette qualité dominante, malheureusement, elle est parfois, justement, rongée à sa racine par ce défaut. Et l'image qui donne le père Garrigou Lagrange, c'est aussi, dans l'Évangile, le bon grain qui a été semé, puis l'ivraie qui vient pousser dans la nuit. Alors, ça n'est pas exactement une parabole sur le défaut dominant, notre Seigneur n'a pas voulu dire ça, mais les auteurs spirituels y ont pris cet exemple, et c'est très, très juste, très judicieux, parce qu'il montre que finalement, ça pousse en même temps. Et si on veut arracher tout en disant « bon ben c'est bon, j'ai un défaut dominant, ça y est, j'ai repéré, je l'arrache, je le détruis », vous allez vous détruire, parce qu'il était dans votre nature. Donc le défaut dominant, il ne s'agit pas de le détruire, il faut le neutraliser. Ça n'est pas la même chose. Certains qui donnent beaucoup de courage et d'enthousiasme dans la lutte pour le défaut dominant disent « il meurt un quart d'heure après nous ». Donc s'il vient compromettre notre qualité principale, il est évidemment dangereux. Je donne les exemples du père Garrigou Lagrange, ça m'évitera d'inventer. Telle personne est portée à la douceur, mais si par suite de son défaut dominant, qui est peut-être la mollesse, sa douceur dégénère en faiblesse, en excessive indulgence, il peut arriver à perdre toute énergie. Vous voyez ? Donc il y aura une question à la fois de tempérament et de douceur, même peut-être vertueuse, mais qui risque, si elle n'est pas quand même un petit peu contrecarrée par une certaine force, de dégénérer en mollesse, en faiblesse et en capitulation finalement sur tous les domaines. Un autre, au contraire, est naturellement porté à la force, mais s'il se laisse aller à son tempérament irascible, la force dégénère en lui en violence déraisonnable, cause de toutes sortes de désordres. Alors comment peut-on connaître notre défaut dominant ? Eh bien, il y a plusieurs petits moyens. Ce sont plutôt des tests, si vous voulez, qui vont se croiser, s'accumuler. Ce n'est pas un seul de ces points que je vais vous donner qui vous dira « ça y est, je suis sûr, c'est bon ». C'est l'ensemble, plus, à mon avis. Alors si on regarde quels sont ces défauts dominants possibles, bon, ça tourne autour de l'orgueil, de la paresse, de l'égoïsme, de la sensualité, la colère, bon, vous voyez, c'est à peu près dans ces domaines-là. Et on voit que finalement, c'est vrai, la plupart de nos actions vont être plus ou moins lancées, plus ou moins dominées par ce défaut. Mais vous savez bien qu'avec l'orgueil, la colère ou la paresse, il y a plein d'autres péchés qui se font, mais qui ont pour racine cette tendance naturelle que l'on n'a pas combattue. Donc encore une fois, le défaut dominant n'est pas le péché le plus fréquent. Alors, comment le tester ? Comment le repérer ? D'abord, il faut demander à Dieu de vous dire, de vous éclairer. Mais n'attendez pas un simple temps de silence, et puis après la réponse qui s'impose à vous, venant de Dieu. ce ne serait pas très sûr. Non pas qu'il ne faille pas faire confiance à Dieu, mais malheureusement, on risquerait de se tromper soi-même. Première question qu'on peut se poser, à quoi tendent mes préoccupations les plus ordinaires ? C'est-à-dire ce que je fais habituellement, ce à quoi je pense, ce que je désire habituellement. Pensez à Judas. Judas, on a dit, c'est révélé, son défaut dominant, c'était l'avarice. Et on voit, Saint Jean spécialement le note à plusieurs reprises, à chaque fois qu'il y a une question d'argent, on pourrait dire, il est là, alors il avait reçu comme responsabilité de s'occuper des finances, manifestement, du groupe des apôtres. Mais en même temps, à chaque fois, c'est déformé, c'est détourné. Il voit Sainte Marie-Madeleine qui répand un parfum riche, il s'en offusque. Et il dit, ça aurait pu servir à des pauvres. Saint Jean ne le rate pas, puisqu'il dit, de toute façon, ce n'est pas les pauvres qui l'intéressaient, lui, il en mettait dans sa poche, en gros, hein, je résume. Lui-même vendra notre Seigneur pour 30 deniers, ce qui n'était pas une somme extraordinaire non plus. C'est le prix d'un esclave de base. Et puis, on voit bien que ça l'a toujours accompagné. Donc, si on ne combat pas, ben on est capable de faire des choses terribles, trahir notre Seigneur. Deuxième question, quelle est la cause? Généralement, hein, c'est quelque chose de général, de fréquent, enfin de récurrent plutôt. La cause ou la source de ma tristesse, et vous faites aussi la même chose avec ma joie. Qu'est-ce qui me réjouit habituellement? Ou qu'est-ce qui m'attriste habituellement? Éliminer par principe les tristesses accidentelles, les drames familiaux, les choses comme ça, ça n'a rien à voir. Donc quelles sont les joies, les choses dans lesquelles je me complais bien et ça me met en joie tout de suite. Ou à l'inverse, ça me met dans une tristesse tout de suite, immédiate. Ça, c'est important de le détecter. Troisième question, qu'est-ce qu'en pensent ceux qui me connaissent bien? Qu'est-ce qu'en pensent ceux qui me connaissent bien? Alors ça, c'est la question qu'on n'aime pas trop se poser ou poser. Faites-la avec l'idéal, ce sont les parents. Et puis, si vous n'avez plus vos parents, ben, essayez de vous souvenir ce qu'ils vous ont dit. Alors, généralement, c'était un refrain. Donc, c'était facile à retenir. Vous avez toujours été... Tac, vous trouvez le mot qui manque. On ne change pas de défaut dominant en cours de vie, hein, donc vous êtes tranquille. Hein, Alors, ensuite, il faut aussi se demander, dans les moments de ferveur, et c'est pour ça que c'est important de faire ce travail en retraite, dans les moments de ferveur, donc vous êtes très probablement dans les moments de ferveur, même si ce n'est pas « j'ai continu », c'est dominant, justement, dans une retraite. Mais il ne faut pas être surpris, hein, j'ai une parenthèse, mais il ne faut pas être surpris s'il y a des moments de tristesse dans une retraite. Le démon travaille aussi, hein. Mais en tout cas, la dominante, c'est la joie, c'est la consolation, l'apaisement. Donc profitez-en, c'est ça justement les moments de ferveur. Eh bien, quels sont dans ces moments de ferveur, ça peut être aussi après une communion, hein, quels sont dans ces moments de ferveur les inspirations du Saint-Esprit et qui me dit, tiens, c'est ça qu'il faut corriger, c'est ça qu'il faut sacrifier peut-être. C'est là-dessus que vous pouvez réfléchir sérieusement. Alors une fois qu'on l'a repéré, ou en tout cas qu'on l'a au moins discerné, eh bien il faudra le combattre. Les plus faciles sont ceux qui touchent le corps, le plus difficile ceux qui touchent l'esprit. Donc paresse, gourmandise, choses comme ça, sensualité, c'est facile à repérer. Orgueil, c'est le plus difficile. Pourquoi ? Parce que lui-même se fait une carapace, se fait une espèce de c'est un caméléon qui va s'adapter. L'orgueil, si c'est le défaut dominant, même si tout le monde a plus ou moins des racines d'orgueil, c'est malheureusement aussi l'héritage du péché originel, si c'est vraiment le défaut dominant, il va accuser les autres. Donc vous allez dire ah oui, je suis extrêmement paresseuse ou je suis extrêmement gourmande, ce qui ne serait pas forcément l'avis de personnes proches, mais parce qu'en gros, vous n'avez pas envie, l'orgueil n'a pas envie de se démasquer, d'être démasqué. Donc c'est le plus rebelle, c'est le plus difficile à repérer. On va vraiment accuser tout le monde, enfin tout le monde, les autres défauts, et puis on va surtout pas dire qu'on est orgueilleux. Donc on cherchera à se justifier constamment. Je suis paresseuse, mais je ne suis pas spécialement orgueilleuse. D'ailleurs, ceux qui me le disent n'ont qu'à se regarder. Bon, sûr que là... Vous voyez, là, on sent déjà le défaut qui transparaît. Alors, une fois repéré, donc, on doit le combattre. Et il y a plusieurs façons qui sont toujours les mêmes. Là, c'est facile, quel qu'il soit. La première, c'est de l'observer dans son examen de conscience. C'est-à-dire, on fait un examen particulier du défaut que l'on a repéré. Alors, peut-être qu'il se manifeste effectivement dans plusieurs péchés. Hein. C'est comme si c'est une racine. La racine a plusieurs branches après. Et il fait malheureusement des dégâts dans beaucoup de domaines. Mais peu importe, on va le regarder à sa racine. Donc, c'est la paresse qui m'a empêché de faire mon devoir d'État. Donc, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Donc, finalement, dans la famille, ça n'a pas été. Ou bien alors, dans la colère, je me suis mis en colère. Et puis, finalement, j'ai cassé quelque chose. En cassant quelque chose, etc. Enfin, vous voyez, il peut y avoir des péchés successifs, cumulés. Mais ce qu'il faut avoir observé, c'est que là, il s'est manifesté à la base. Et c'était encore lui qui était à la base. Vous voyez, c'est ce travail qu'il faut faire dans l'examen de conscience. Même si, évidemment, il faut regretter les péchés actuels qui ont été faits, qui sont le fruit malheureux de cette racine. Deuxième point, il faut essayer de se préparer, enfin, il faut prévoir une pénitence qui puisse répondre à cette nouvelle manifestation du défaut dominant. Donc, des petites pénitences. Jamais des choses lourdes, mais qui sont comme, vous savez, ces personnes qui veulent arrêter de dire des gros mots et qui mettent une pièce dans une tirelire à chaque gros mot. Alors, au bout d'un certain temps, pour éviter d'être pauvre, eh bien, elles arrêtent de dire des gros mots. Alors, ben, c'est un petit peu ça. Si on prévoit une petite pénitence qui vient contrecarrer en fin de journée, ou au mieux, ça c'est encore idéal, mais ce n'est pas toujours réalisable, juste après, on s'est rendu compte, mince, ça y est, je suis retombé. Alors ça vient avec l'habitude. Quand on a pris l'habitude d'examiner son défaut dominant, on a une conscience qui est beaucoup plus aiguë, beaucoup plus vive. Et c'est un bien, parce qu'on voit tout de suite mieux ce qu'on fait, ce qu'on vient de faire. Alors d'abord, ça nous aide à empêcher de tomber, parce que la conscience étant plus vive, elle nous signale davantage avant la chute qu'il ne faut pas tomber, mais quand bien même on serait tombé, elle vient nous montrer avec plus de vivacité aussi qu'on vient de tomber et que ça y est, c'est toujours la même racine qui est encore en cause. Donc il est bien, il est bon, mais encore une fois c'est un stade un petit peu avancé, mais pas très avancé, de pouvoir s'auto-punir légèrement, par humilité, humblement, sur cette faute qu'on vient de commettre. Et du coup, eh bien, commence un véritable travail de neutralisation de ce défaut dominant. J'ai bien dit de neutralisation et non pas de suppression, ni de destruction. Alors, ce combat avec l'examen de conscience directement comme un projecteur qui vient l'illuminer tous les soirs et en voir tous les dégâts même, et accompagné d'une petite réparation, doit s'achever, si je puis dire, avec une résolution. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme la retraite elle-même, si vous voulez. Vous avez vu vos péchés, vous les avez confessés. Vous avez vu qu'ils étaient des obstacles à la vie du Christ en vous, donc maintenant vous voulez les éliminer. C'est tout ce mouvement d'une retraite. Hein. C'est le principe d'une retraite, c'est que on se découvre éloigné de Dieu, on a la grâce de Dieu qui vient nous rechercher pour nous rapprocher de Dieu et nous unir à lui. Et puis maintenant, on fait un travail de préservation de cette union et d'élimination de tous ces obstacles qui ont été la cause de notre éloignement de Dieu. Donc, dans l'examen de conscience du soir, c'est un petit peu le même travail. Vous venez de voir dans votre examen de conscience ce qui a été mauvais dans votre journée. Et puis, vous allez regretter, petite punition, prière à Dieu, de regret, contrition. Et puis, vous allez prendre une résolution pour contre-attaquer. Et c'est cette contre-attaque qui doit être précise dans vos choix de résolution. Il ne s'agit pas de prendre une résolution par jour différente. Hein. Le défaut étant toujours le même, les résolutions peuvent tourner toujours autour de la même chose. Mais si vous avez observé que c'est à telle occasion que ça y est, ça a démarré et vous êtes tombé. Il faut prévoir l'occasion. Si l'occasion se représente et vous êtes sûr qu'elle va se représenter, eh bien il faut la prévoir, c'est-à-dire prévoir votre réaction. C'est quand même mieux de devoir contre-attaquer des défauts dont on connaît déjà les manifestations. Si vous voulez, une tentation qui nous arrive comme ça brutalement et exceptionnellement, on ne sait pas trop comment réagir. Donc on peut se faire avoir facilement. Tandis qu'une tentation que l'on sait déjà, on s'est déjà fait avoir, mais on sait comment elle va arriver et on sait comment on risque de réagir si on ne fait rien, ben c'est notre faute si on tombe à chaque fois. Donc c'est le cas par exemple de la colère, mais aussi de la paresse. Si on sait que telle personne nous agace au travail, etc., et qu'on sait qu'on va la voir quand même, ben, il faut prévoir un moyen de, si on ne peut pas l'éviter, évidemment, ce qui n'est pas évidemment forcément souhaitable, eh bien de lui parler autrement, de se taire si elle nous agace, etc. Enfin, peu importe, il faut prévoir la réplique, parce que de toute façon, ça va se produire. Donc, on est déjà au courant. Pour la paresse, c'est la même chose. C'est typique des enfants qui sont au bureau et qui ne font rien pendant des heures. Ben, si ça dure à chaque fois comme ça, alors les parents disent « si, il est à son bureau pendant des heures ah, ». Oui. Qu'à voir le résultat le lendemain. Ben, il faut prévoir que s'il n'arrive pas, étant tout seul à son bureau, à se mettre au travail, il ben, faut peut-être qu'il se mette dans un endroit où il y a du monde. Comme ça, il est plus sûr de se dire, alors, sauf si c'est des petits-enfants bas âge qui font beaucoup de bruit et qui l'empêchent de travailler. Mais il faut trouver la solution concrète qui viendra contrecarrer la tendance habituelle qui fait tomber. Alors, je termine en évoquant simplement l'examen de conscience. J'ai dit tout à l'heure une chose, mais je voudrais la préciser, la compléter. J'ai dit, dans l'examen de conscience, on va regarder ce qui ne va pas dans la journée. Eh bien, je voudrais que vos examens de conscience ne soient pas simplement l'examen de conscience de ce qui ne va pas. Alors, souvent, ça... Les retraitantes sont un peu surprises quand je dis ça. Mais je crois que c'est très important de regarder dans notre examen de conscience ce qui a été. Parce que le bon Dieu ne nous demande pas... Sinon, l'examen de conscience devient vite insupportable parce que malheureusement, on se répète dans nos fautes. Et faire tous les soirs cette espèce de séance d'autocritique... et de bilan négatif est profondément lassant. La conséquence directe, c'est qu'on abandonne. Donc on se coupe d'un moyen prodigieux de progresser spirituellement, ce qui est quand même le comble. On supprime l'examen de conscience parce que ça nous lasse, ça nous déprime, on n'était déjà pas en forme, et en plus, on voit que c'est extraordinairement plat comme journée, et du coup, on laisse tomber l'examen de conscience. Eh bien, il faut prendre comme résolution de faire un examen de conscience qui soit à deux colonnes. Une colonne de ce qui s'est bien passé, à l'issue de laquelle on remercie le bon Dieu, c'est l'action de grâce, la gratitude. Oui, mon Dieu, j'ai pu faire ce bien. Et c'est grâce à vous. Et puis, on regarde effectivement aussi ce qui n'a pas été. et on demande pardon, c'est la contrition. Donc action de grâce, contrition. Et puis, pas la troisième colonne, mais la conclusion de tout cela, ce sont les résolutions concrètes. Ou la résolution concrète, hein, ne les multipliez pas, ça ne sert à rien. On ne peut pas mener de front 36 combats. Et vous attaquez alors, fructueusement, avec les sacrements, bien sûr, hein, confession régulière, communion fréquente, etc. Hein, ça, c'est ce que je vous dis cet après-midi n'est évidemment pas exclusif, ça s'ajoute au reste. Et alors, vous avez un combat spirituel qui est lancé, et sur lequel vous découvrez que vous acquérez cette conscience beaucoup plus délicate de votre agir. Vous vous confessez avec plus de précision parce que vous voyez bien où vous en êtes. Vous voyez mieux où vous en êtes. C'est un chemin toujours progressif, hein, donc on n'a jamais un niveau maximal atteint. Donc cet examen de conscience a double entrée, hein, double colonne. Ça doit vous aider à prendre vraiment la mesure de ce combat spirituel dont je parlais l'autre jour pour le mener de près. Et enfin, je voudrais terminer par rapport aux résolutions que vous êtes en train de prendre, que vous avez prises ou que vous allez prendre là. Soyez très précise. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait de résolution. Ça y est, par exemple, vous avez trouvé votre défaut dominant, c'est la colère, c'est la paresse. Bon, résolution, je serai moins ou plus coléreuse. Ça ne sert à rien. Il faut que ça soit précis. Vous savez que vous mettez en colère dans telle circonstance, eh bien c'est qu'est-ce que je fais, la question qu'il faut se poser et la réponse vous l'écrirez, qu'est-ce que je fais face à cette situation qui risque de se répéter? C'est là-dessus qu'il faut travailler. Je suis paresseuse, comment? Partout, tout le temps? C'est rare. C'est peut-être pour les stages domestiques, c'est peut-être pour le travail, la profession, c'est peut-être vis-à-vis des enfants, c'est peut-être dans ma formation chrétienne, c'est peut-être je ne sais quoi. On est rarement paresseux, complet, à être au lit toute la journée, sans raison médicale. Donc, faut être très très précis. Très très précis. Et c'est ça qui vous fera progresser. Et évidemment, le nombre de résolutions doit être raisonnable, d'où l'intérêt, et presque l'obligation, même si ça n'en est pas une au sens strict, de les montrer à un prêtre. Alors, on ne vous connaît pas forcément suffisamment pour juger du bien fondé de ce que vous nous proposez, mais on peut voir, grosso modo, si c'est excessif ou si c'est insuffisant. Ça peut être le cas. Donc... Alors sur cette fiche, vous aurez donc la vie de prière, la vie sacramentelle, les vertus à pratiquer, les esclavages à supprimer, la formation religieuse et enfin l'action, je disais. Comme on n'ira pas à la chapelle, je prends légèrement un petit peu de temps, mais pas beaucoup. Vie de prière, prière du matin et du soir, ça, soit c'est déjà fait et c'est normal, soit ça n'est pas fait et ça doit être pris comme résolution. Vous n'allez pas prendre comme résolution « je prendrai mon repas 3 fois par jour » parce que c'est acquis. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Eh bien, pour la vie de l'âme, il faut la nourrir aussi, et au moins 2 fois par jour. Donc, ça doit être acquis. La prière en famille, si vous êtes en famille, alors là, ça ne dépend pas que de vous. Donc, c'est pareil, en rentrant dans 48 heures, c'est ça ? Vous n'allez pas imposer vos résolutions à toute la famille. Alors c'est bien de dire la prière en famille, c'est sûr, pas moi qui vous dirai le contraire, mais en même temps sachez que c'est une résolution qui ne dépend pas que de vous a priori. Donc si elle est déjà placée, si elle est déjà fixée, très bien, vous l'accentuez, vous l'enrichissez, vous apportez les lumières de votre retraite. Mais si c'est conflictuel, il ne faut pas forcément se dire bon, « j'attaque pas là-dessus parce qu'il y aura déjà d'autres points que je vais supprimer » ou des choses comme ça. Mais attention, il faut réfléchir. L'oraison, ça dépend où vous en êtes dans votre vie spirituelle, donc c'est à voir avec le prêtre. Le chapelet, ça dépend si vous l'avez déjà dit. Si vous avez déjà dit quelques dizaines, passez au chapelet. Ce serait normal qu'une chrétienne dise son chapelet tous les jours. Si vous n'avez jamais dit, ne vous engagez pas directement, c'est pas une obligation hein, ce que je dis, mais c'est pas forcément prudent de s'engager à dire le chapelet alors qu'on l'avait jamais dit du tout et qu'on a déjà pris d'autres résolutions qui vont s'accumuler. Et il faudra, c'est à voir avec le prêtre. Le bénédicité, l'angélus, vous voyez, si vous pouvez le dire régulièrement, c'est la vie du chrétien normal. Alors évidemment, on n'est plus dans une société qui nous y incite, quoique il y a encore beaucoup d'églises qui sonnent l'angélus, mais enfin on ne les entend pas toujours, et puis si on est en ville, de grande ville, ça ne s'entend pas toujours. Mais faut vivre en chrétien dans tous les aspects de la vie chrétienne. Lecture spirituelle, ça c'est presque aussi indispensable pour entretenir les fruits de votre retraite. La vie sacramentelle, la messe, peut-être la messe en semaine, j'en ai déjà parlé hier, peut-être et peut-être pas. C'est pas parce que vous sortez d'une retraite qu'il faudra que tous les jours, parce que vous avez la possibilité, la messe n'est pas très loin, votre mari et votre enfant attendent la fin de la messe de 19h pour pouvoir attendre une heure la mise en place du repas et avoir le repas. Ce serait désordonné. Et pourtant, c'est la messe. Vous voyez, il y a des points où parfois, la dévotion peut être un excès. En tout cas, elle est imprudente, c'est-à-dire qu'elle ne convient pas aux circonstances. Les communions, préparation, action de grâce, ça, oui. Confession fréquente, voyez avec le prêtre que vous pouvez voir le plus régulièrement possible, la fréquence, entre 15 jours et un mois, c'est bien. 15 jours, c'est bien. 3 semaines, c'est bien aussi. Un mois, ça commence à être un peu long comme délai. Ça dépend aussi de votre vie, là où vous en êtes. Les vertus à pratiquer, alors voyez, hein, c'est alors évidemment la lutte contre le défaut dominant, il en est question, le devoir d'État, l'emploi du temps, j'en ai parlé, devoir envers la famille, alors ça c'est au cas par cas, vous regardez ce que vous faites vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de vos parents, si vous les avez toujours, vis-à-vis de proches qui seraient géographiquement voisins, etc., charité fraternelle. Les esclavages à supprimer, alors c'est ça que j'appelle les occasions de péché. Télévision, cinéma, sorties mondaines inutiles, téléphone, internet, cigarettes, alcool, excès de nourriture, friandises, coquetterie, mode, revue mondaine inutile. Bon, voilà, j'en ai pris quelques-uns dans cette liste. Formation religieuse. Donc là, c'est important, c'est comme la lecture spirituelle, ça viendra approfondir, prolonger les fruits de la retraite. Et ça, c'est indispensable. Vous savez très bien que nous sommes dans une période difficile pour la vie de l'Église, on parle de crise de l'Église, on parle de problèmes doctrinaux qui vous dépassent souvent, qui nous dépassent parfois, et qu'est-ce qui manque? C'est la formation doctrinale. Alors, il y a un minimum qui doit être abordé, un minimum qui doit être étudié. Il ne faut pas se dire, moi, ce n'est pas mon domaine, je ne suis pas prêtre, je n'ai pas d'enfant à m'occuper. Souvent, les erreurs rendent d'autant plus facilement qu'on ne les repère pas comme erreurs. C'est évident, c'est la palissade. Donc, si vous repérez tout de suite que telle chose est une nouveauté contraire à l'usage de l'Église, ça ne rentrera pas en vous, mais vous saurez pourquoi. Si vous dites, oh ben tiens, ça se fait maintenant, ça a l'air pas mal, c'est bien, pourquoi pas, et vous vous laissez piéger, c'est parce que vous avez peut-être une faute au niveau de l'ignorance. C'est une ignorance coupable. Vous auriez dû savoir. Mais il y a des questions qui sont pas du domaine des laïcs, c'est sûr, et même des prêtres, souvent des magistères de l'Église enseignante. Et l'Église enseignante, c'est le pape et les évêques, hein, c'est tout. Enfin, l'action. Alors là, c'est à voir au cas par cas, l'apostolat de l'exemple dans la famille, au travail, l'aide que l'on peut donner dans son temps, justement, les actions caritatives, visite de malades, aide dans les prieurés, visite des personnes âgées, etc. Le soutien matériel, si on a des moyens financiers, on doit donner une part à des œuvres bonnes, les prieurés, les écoles, les séminaires, etc. L'apostolat organisé, les cercles de tradition, les groupes de jeunes, MJCF, catéchisme, etc., tout ce qui est organisé dans les prieurés, Et puis l'action catholique, bon, ça concernera plus souvent les hommes, ça, que les femmes, mais pourquoi pas ponctuellement. Donc l'action sociale, civique, politique, etc. Voilà. Voilà, je vous laisse prendre une feuille en partant, et vous pouvez évidemment travailler à la rédaction pour vous et pour les présenter aux prêtres de ces résolutions.